20 часов в Париже.
В Париже, он есть термометр
с датом.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Ce soir, c'est avec Laura Martel de la rédaction en anglais à propos d'une chenille légionnaire qui décime le maïs en Afrique.
Good evening.
Également pour la rédaction persane, Azadeh Valla, pour la manière dont Israël a pu se procurer les documents concernant le programme nucléaire iranien. Et Matei Vichniec de la rédaction roumaine, car les Roumains se rappellent d'une visite historique effectuée par Charles de Gaulle en mai 68.
Bonasera.
Bonsoir à vous tous. Avant cela, intéressons-nous à ce qui se passe en Arménie. Depuis trois semaines, il y a des manifestations qui ont eu raison de Serge Sarkissian, l'ancien président devenu Premier ministre. Son départ a provoqué une liesse populaire sans précédent dans les rues de la capitale. Et pour le remplacer, il y a le chef de l'opposition qui s'agite mardi dernier. Pourtant, alors qu'il était le seul candidat pour le poste, il n'est pas parvenu à être élu. Le parti républicain, qui a la majorité absolue dans l'hémicycle, ayant fait bloc contre lui. Alors, Nicole Pachignan espère bien être élu à la tête du gouvernement mardi prochain maintenant. Sur cette révolution de velours en cours à Erevan, le regard des rédactions de Radio France Internationale. Matei pour la rédaction roumaine, Nicole Pachignan marque des points dans sa course au pouvoir, malgré tout, hein.
Il est en train de gagner son pari, il a son peuple derrière lui. Après avoir misé sur une vaste mobilisation pacifique, il faut se rappeler qu'en 2008, lors de la contestation contre la victoire de Serge Sarkissian à cette époque-là, il a eu 10 morts. Cette fois, la stratégie de Nicole Pachignan a été totalement différente. Pas de protestation qui tourne à l'émeute, plutôt un mouvement de désobéissance civile façon bon enfant. La journée de paralysie générale du pays organisée ce mercredi a été un succès total. Tout d'abord médiatique, on a vu à la télé un peuple calme, décidé, qui bloque en dansant certains carrefours, places, gares. Il faut encore une fois constater que les réseaux sociaux ont bien fonctionné en Arménie en faveur de la démocratie. Son équipe rapprochée compte apparemment une vingtaine de personnes, mais a été redoutable. Il faut dire aussi que le peuple arménien n'accepte plus qu'un clan politique s'éternise au pouvoir.
Azadeh l'Iran suit attentivement les évolutions politiques de l'Arménie. Depuis le déclenchement de la crise arménienne, les médias d'État essaient de minimiser le pouvoir des vagues de contestation depuis maintenant, je le disais tout à l'heure, trois semaines.
Oui, ce sujet nous intéresse d'autant plus que l'Arménie est voisine de l'Iran. Les deux pays sont historiquement très liés. Les Arméniens d'Iran constituent l'une des plus anciennes et influentes communautés des Arméniens au Moyen-Orient.
Oui, mais moi je voudrais que vous me parliez de ce qu'a écrit le journal quotidien Kayan dans son numéro, qui ne se montre pas très optimiste envers la victoire des opposants.
Oui, le journal quotidien Kayhan, dans son numéro d'hier, ne se montre pas optimiste envers la victoire des opposants et de l'avenir de l'Arménie. Il prédit que lors de l'élection d'un nouveau premier ministre qui aura lieu le 8 mai prochain, Nicole Pachignan n'obtiendrait pas assez de voix car le parti républicain dispose de la majorité du Parlement. Le journal ajoute que ce nouvel échec risquerait de plonger le pays dans l'instabilité. Selon ce journal et beaucoup d'autres quotidiens iraniens, les États-Unis et l'Union européenne portent un intérêt particulier à l'Arménie. Cela s'explique par la situation stratégique et géographique de ce pays qui est voisine de la Turquie, de la Géorgie, de l'Azerbaïdjan et de l'Iran. Certains experts et journaux attribuent la révolution de couleur de l'Arménie aux ingérences occidentales et surtout aux États-Unis dans le but de contrer et d'affaiblir la Russie, alliée traditionnelle et historique de l'Arménie.
Alors sur le côté international, on verra ça plus tard. Matei, on parle d'une révolution de velours dans ce pays. Cela surtout parce que l'ancien président Serge Sarkissian, qui voulait devenir Premier ministre, est en train d'être poussé vers la sortie sans violence. Mais le mot révolution, est-ce qu'il est approprié ou non ?
Oui, il faut parler plutôt d'un formidable éveil de la société civile. Cela se passe, il faut pas oublier, dans une région où il faut ménager la Russie. C'est pour cela que ce mouvement n'a pas une dimension anti-russe. En Ukraine et en Géorgie, nous avons assisté ces dernières années à des affrontements entre des partis ou des camps pro-russes et pro-occidentaux. Ce n'est pas le cas en Arménie. D'ailleurs, Nicole Pachignan a renoncé totalement à la rhétorique anti-russe. Il dit « Je suis pro-arménien. L'Arménie ne veut pas sortir de l'union euro-asiatique proposée par Poutine. Et d'ailleurs, beaucoup d'Arméniens sont contents de pouvoir aller travailler en Russie. Il faut dire aussi que Moscou soutient l'Arménie dans son conflit avec l'Azerbaïdjan pour la région Nagorno-Karabakh. Ce qui me paraît aussi intéressant, c'est que Nicole Pachignan est en train de gagner la bataille politique sans avoir eu un programme clair. Il annonce ce programme dans une vingtaine de jours, si tout va bien. C'est une autre autres leçons dans certaines régions du monde. On s'arrache d'abord le pouvoir et après on annonce le programme politique.
Laura Martel de la rédaction en anglais, même si Nicole Pachignan accède au poste de Premier ministre, quelle marge de manœuvre aura-t-il pour insuffler des changements dans la culture politique arménienne, également dans son positionnement international?
Oui, alors nous, c'est notre collègue Mike Woods qui s'est penché sur ce sujet et a commencé donc par la capacité de Pachignan à faire changer les choses sur la scène politique arménienne après l'ère Sarkissian, dans un pays à l'économie chancelante, marqué par la mainmise d'une poignée d'oligarques. Et d'autant que même si Pachignan est doté d'un talent d'orateur, on l'a vu avec ses meetings improvisés dans les arrière-cours sur les toits des garages, et même s'il incarne désormais quasiment seul la figure de l'opposition, bah comme le disait Mattei, son programme reste pour le moment plus que vague. Samuel Martirossian, lui, est un analyste, il travaille sur les réseaux sociaux, il avait pris part aux manifestations et il nous dit bien, il y a une oscillation entre doute et espoir.
On l'écoute. Quelle est son analyse?
Alors pour lui, ce qu'il faudrait maintenant, c'est en profiter pour se débarrasser des élites politiques corrompues, de débarquer les oligarques qui sont au gouvernement, au parlement et à la tête des grosses entreprises. Mais Pachignan peut-il y arriver? C'est ce qu'il se demande. Il espère, mais il en doute, d'autant, dit-il, que le parti de Sarkissian dispose encore de nombreux relais stratégiquement placés.
Alors autre question, Laura, celle du positionnement de l'Arménie sur la scène internationale.
Et notamment entre Union européenne, Russie, notre manifestant, toujours Samuel Martirossian, n'attend pas vraiment de changement majeur sur ce point. Pour lui, Pachignan va continuer son espèce de jeu d'équilibriste entre pays occidentaux et Russie. Et c'est aussi ce que pense le politologue Laurent Leylekian.
Que dit-il ?
Alors il explique que la plupart des leaders politiques ou partis arméniens, Pachignan compris, ne peuvent pas se permettre de remettre en cause l'influence russe dans cette zone, notamment à cause de l'encerclement de l'Arménie entre une Turquie hostile et un Azerbaïdjan avec lequel, dit-il, Erevan est actuellement quasiment en état de guerre. Pour le moment d'ailleurs, Nicole Pachignan semble bien décidée à maintenir cet équilibre, puisque qu'il indiquait qu'il tiendrait ses engagements de partenariat avec l'Union européenne, mais il a aussi souligné que l'alliance avec Moscou resterait avec lui un axe essentiel de la politique arménienne. Et il a d'ailleurs déclaré hier qu'il avait rencontré les ambassadeurs de Russie, des États-Unis, de l'Union européenne et de la Géorgie pour leur annoncer l'accord conclu avec le parti.
Alors justement, sur cette influence de Moscou, de la Russie, Azadeh, il y a une lutte d'influence qui se joue en coulisses.
Oui, et certains experts et journaux attribuent la révolution de couleur de l'Arménie aux ingérences occidentales et surtout aux États-Unis dans le but de contrer et d'affaiblir la Russie, alliée traditionnelle et historique de l'Arménie. Et pour la République islamique d'Iran, qui a des relations complexes avec la plupart de ses voisins et qui bénéficie de ses bonnes relations avec l'Arménie, le rapprochement entre l'Arménie et les États-Unis n'est pas très bienvenu. Parce que la République islamique souhaite s'implanter dans le Caucase et créer peut-être une sorte de l'axe l'Iran, l'Arménie, la Russie. En effet, pour contrer l'influence américaine et ses alliés turcs, géorgiens et azéris, Téhéran a intérêt à se rapprocher de l'Arménie.
Oui, parce que il y a le fait que l'Arménie est voisine de l'Iran et que les deux pays sont historiquement très liés, notamment en termes d'économie, notamment à propos de pétrole et de gaz.
Oui. Parce que les bonnes relations qui lient l'Iran et l'Arménie dans les domaines stratégiques, diplomatiques, économiques et culturels sortent chacun de ces deux pays de son isolement relatif. L'Arménie et l'Iran ont des accords de livraison d'hydrocarbures, surtout du gaz iranien à Erevan. En échange du gaz iranien, trois lignes électriques haute tension relient l'Arménie à l'Iran.
Et puis il y a aussi le fait qu'à Erevan, il y a des dizaines d'entreprises iraniennes qui exercent dans plusieurs domaines industriels. Mattei, ce qui se passe en Arménie est-il un espoir pour la démocratie dans une région où ces dernières années, on a constaté une autre tendance, c'est celle des autocrates qui s'installent à vie au pouvoir, qui ne veulent pas en décrocher?
Je voudrais croire que la petite Arménie donne une leçon de vitalité démocratique à tout le monde, surtout aux Russes, aux Chinois et aux Turcs et pourquoi pas aux Iraniens. Ces dernières années, on a vu comme Vladimir Poutine, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan ont manœuvré pour s'installer durablement aux commandes. On peut placer sur cette liste aussi Viktor Orban en Hongrie, ce qui est un très mauvais exemple pour beaucoup de pays où la démocratie est encore fragile. Les Arméniens viennent de casser cette logique, cette tendance, ce modèle. Ils démontrent aussi qu'il n'y a pas de fatalité en politique, que le système des clans et des oligarques peut être ébranlé.
Et donc la suite, ce sera mardi prochain avec très vraisemblablement l'élection de ce chef de l'opposition au poste de Premier ministre. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
This is Radio France International.
Paris, RFI,
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous à des sujets particulièrement traités par les rédactions en langue étrangère de RFI. Pour ce qui est de la rédaction persane, c'est la manière dont Israël a pu se procurer les documents concernant le programme nucléaire iranien et les hypothèses avancées par certains spécialistes. Alors, c'est d'abord Benjamin Netanyahou qui a accusé l'Iran de dissimuler un programme nucléaire et il l'a fait en direct à la télévision israélienne.
Oui, effectivement, le 30 avril, en présence de la presse, Benjamin Netanyahou a annoncé détenir ce qu'il appelait des preuves des mensonges de l'Iran au sujet de son programme atomique et de sa volonté d'acquérir l'arme nucléaire. Il a présenté quelques clichés, quelques photos, vidéos et il a affirmé que cet ensemble contient les documents de 55 000 pages, notamment en persan et 183 CD pour appuyer son argument. Selon Benjamin Netanyahou, il y a quelques semaines que les services de renseignement israéliens les ont transférés d'un entrepôt secret à Téhéran en Israël.
Donc l'annonce a été fracassante, c'était à 20h à la télévision. Dans la foulée, Azadeh, comment est-ce que les autorités iraniennes ont réagi?
Effectivement, on n'avait pas de réaction ferme de la part des autorités iraniennes. Lundi soir, le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, s'est moqué de Netanyahou sur son compte Twitter en le qualifiant de berger menteur. Zarif a écrit que Netanyahou avait fait des pseudo-révélations à quelques jours de l'annonce de Donald Trump et son vice-ministre Abbas Araghchi a qualifié le discours de Netanyahou et sa démonstration de mise en scène grotesque et enfantine bien orchestrée pour influencer la décision de Donald Trump et tuer l'accord nucléaire.
Mais en tant que tel, pas de réaction ferme de la part des autorités iraniennes. Pour ce qui est du côté des Israéliens, comment est-ce que Israël a pu sortir ces dossiers et faire ces révélations?
Il y a beaucoup de doutes et d'hypothèses. Certains croient que l'Israël a pu accéder à ces dossiers à l'aide de ses espions et de ses collaborateurs iraniens et transférer ces dossiers de la frontière terrestre et même par la voie aérienne. D'autres abordent l'hypothèse d'une intrusion informatique pour passer des commandes de déplacement, de transfert des dossiers iraniens. Une opération qui rappelle l'opération Stuxnet qui a ciblé les centrifuges de la centrale de Natanz. L'étonnant de cette hypothèse avance cette idée que l'Israël a peut-être pu gérer le transfert informatique des dossiers en piratant les emails des hauts responsables du nucléaire et du service secret iranien et en usurpant de leur identité.
Donc permis Netanyahou de faire ses accusations. C'était lundi soir à la télévision israélienne. C'était Azadeh Valla de la rédaction persane de RFI. Séquence histoire à présent et souvenirs avec la rédaction roumaine en ce mois de mai 2018 où l'on se plaît à se rappeler ce qui s'est passé en mai 68 et notamment les fameux événements en France qui avaient fait vaciller le général de Gaulle, alors président de la République. Les Roumains se rappellent d'une visite historique effectuée en mai 68 justement de Charles de Gaulle dans leur pays. Matej Wichniec, c'était la première fois qu'un président français se rendait dans ce pays.
Et c'était pour la première fois que le jeune président roumain de l'époque, on se rappelle, Nicolae Ceaușescu, recevait une telle personnalité, ce qui lui a apporté une sorte de crédit médiatique international. Avant tout, nous, Roumains et Français, nous voulons être nous-mêmes. C'est une phrase prononcée par De Gaulle devant l'Assemblée roumaine, une phrase en or pour Nicolae Ceaușescu, qui voulait justement prendre ses distances par rapport à Moscou. De Gaulle avait déjà effectué des visites à Prague, à Varsovie, à Budapest et à Sofia, et avait comme projet, je rappelle, je cite, rapprocher l'Europe tout entière de l'Atlantique à l'Ural. La France était perçue à cette époque-là comme un pays qui se situait entre les deux blocs, celui impérialiste dirigé par les États-Unis et celui soviétique, d'où la popularité énorme que De Gaulle avait dans les pays de l'Europe de l'Est. D'ailleurs, grâce à cette visite, on a eu ensuite, nous en Roumanie, plus de livres, plus de traductions du français, plus de films venus de France et plus de musique française. On trouvait aussi, après le départ de De Gaulle à Bucarest, dans les kiosques, Le Monde, mais aussi l'Humanité.
Ouais, des journaux que vous avez lus à l'époque, Mattei. Un coup d'œil sur les images d'archives qui montrent que les Roumains avaient accueilli le président français avec un enthousiasme particulier. Hein.
1 million de Roumains sont sortis à Bucarest, entre l'aéroport et le centre-ville, pour saluer De Gaulle. Pour une fois, la population roumaine sortait de son propre gré, pour saluer aussi, de cette manière, la France et le rôle que la France avait eu dans l'histoire des Roumains. Il paraît que Nicolae Ceaușescu a été même un peu effrayé de voir cet enthousiasme réel, spontané des Roumains. Il était plutôt habitué avec les grandes messes du parti. Les Roumains ont été aussi très touchés de voir que le président français avait appris par cœur quelques phrases en roumain. Écoutons ce que De Gaulle a dit une fois arrivé à l'aéroport.
On sait que c'est De Gaulle, maintenant, qu'est-ce qu'il dit ça?
À tous les Roumains, j'apporte le salut que tous les Français leur envoient du tout cœur. Vive la Roumanie!
Alors, cette visite de Gaulle avait été perturbée par ce qui se passait en France au même moment, car à Paris, les étudiants avaient érigé des barricades et la situation était explosive.
Ben oui, il faut se rappeler, De Gaulle est arrivé à Bucarest le 14 mai, il devait rentrer le 18, mais il a écourté son séjour d'une demi-journée. Les révoltes de mai 68 à Paris ont gâché un peu la fête à Bucarest. J'ai trouvé des témoignages assez croustillants concernant cette visite, surtout dans un livre publié en France, intitulé « Avec De Gaulle en Roumanie », livre écrit par une poétesse et traductrice roumaine Sanda Stolojan. Il avait un contraste énorme, gigantesque entre les deux présidents, entre leur manière de parler, de bouger, de s'adresser à la foule. De Gaulle, par exemple, parlait librement. Ceaușescu lisait absolument tout. À table, le couple présidentiel roumain était extrêmement crispé, incapable d'une conversation normale.
Voilà, deux hommes très différents à l'époque. Matei Vichniec de la rédaction roumaine. Quant à la rédaction en anglais, elle s'est inquiétée des ravages causés par la chenille légionnaire d'automne en Afrique. Laura Martel, en quoi cet insecte est une menace pour la sécurité alimentaire du continent?
Alors d'abord une précision, il y a une chenille légionnaire endémique à l'Afrique. Celle dont on parle est différente, elle vient des Amériques. Elle est apparue qu'en 2016 en Afrique de l'Ouest et vraisemblablement dans des cargaisons de légumes et fruits importés. En 2 ans seulement, elle s'est propagée dans 40 pays du continent. Elle cause beaucoup plus de dégâts, que sa congénère africaine, parce que l'espèce africaine est saisonnière et ne migre pas. On peut donc anticiper son arrivée au moment des récoltes. La cousine américaine, elle attaque la plante dès la pousse, juste à la récolte. Une fois devenue papillon, elle peut pas courir jusqu'à 100 km par nuit, plus de 2000 km en une saison. Et elle est aussi moins difficile. Elle attaque 80 espèces de plantes à peu près. Sa cible préférée, c'est néanmoins le maïs.
Le problème, c'est que le maïs est l'une des céréales les plus indispensables pour assurer la sécurité alimentaire de l'Afrique.
Et depuis 2 ans, les dommages causés aux récoltes sont énormes. C'est ce qu'explique le docteur Ivan Romushana du Centre pour l'agriculture et les biosciences du Kenya.
Fall armyworm has been reported to cause up to $6 billion annually in terms of loss.
Que dit cet expert?
Alors, il nous donne beaucoup de chiffres très alarmants. On estime que la légionnaire d'automne a causé plus de $6 milliards par an de dégâts. Un chiffre qui correspond, nous dit-il, à 2 fois le PIB d'un pays comme le Burundi. Et puis, pour le maïs, cette chenille décime entre 30 et 50% des récoltes selon le pays. En 2017, par exemple, le Kenya a perdu plus du tiers de sa récolte, un manque à gagner financier de $20 millions, sans compter bien sûr des répercussions sur la sécurité alimentaire dans ces pays-là.
Alors, qu'est-ce qui est fait pour lutter contre ce fléau?
Alors d'abord, il a été question de répandre des pesticides massivement, mais ceux qui existaient déjà n'ont pas marché contre cette chenille, d'où plusieurs pistes. Importer des pesticides d'Amérique, mais ils sont très coûteux et toxiques. Utiliser des OGM, mais peu de pays africains l'autorisent. Mélanger des variétés de maïs et des variétés américaines, mais tout ça, ça va prendre du temps. Et puis alors, il y a toute une série d'options plus hasardeuses, importer des prédateurs naturels des Amériques, ce qui est risqué, tout comme l'idée de créer un virus spécialement pour l'éradiquer.
D'accord, mais dans l'urgence, aujourd'hui, qu'est-ce qui est préconisé?
Eh ben, pour l'instant, des méthodes un peu plus artisanales, des œufs, des cendres dans les champs, et puis surtout, mélanger les cultures, parce que finalement, ça permet de la freiner un peu et de détourner son attention en insultant de nouveaux prédateurs à côté de cette chenille.
Et puis, il faut que la FAO tente de mieux coordonner, bien évidemment, les efforts des uns et des autres pour venir à bout de cette chenille. Laura Martel de la rédaction en anglais, c'était Accent du Monde. Merci à vous tous pour cet éclairage sur ce qui fait l'actualité du monde sur RFI.